Il est devenu un sujet d'actualité, une nécessité, un élément incontournable. Vous avez sûrement entendu parler des ODD, Objectifs de Développement Durable. D'ailleurs, 193 pays se sont fixés d'atteindre 17 objectifs d'ici 2030. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc est sur cette dynamique à la fois environnementale et économique. Notion qui définit le besoin de transition et de changement dont a besoin notre planète et ses habitants pour vivre dans un monde plus équitable, en bonne santé et en respectant l'environnement. Quel impact géopolitique, stratégique, économique et même social le développement durable a sur notre quotidien et sur l'évolution du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier numéro sur la durabilité. Et pour mieux comprendre l'enjeu et l'importance de ce sujet mondial, nous sommes avec le docteur Majid Kaysar El Gaïb, directeur de l'Institut de l'innovation sociale et du développement durable à ESCA, École de Management, et conférencier autour des thématiques d'innovation et de business mode. Bonjour professeur.
Bonjour.
Alors docteur, c'est quoi le développement durable et pourquoi faut-il en parler ?
Ah ben, tout d'abord, si vous le permettez, j'oserais avancer une définition qui est la plus reconnue.
Allez-y.
C'est celle d'un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. C'est-à-dire qu'on est dans un développement où on n'est pas dans un excès, mais on est dans une logique de développer et de consommer et de produire juste ce qu'il nous faut pour pouvoir laisser à nos enfants, aux générations futures, la capacité de profiter des ressources qui sont sur Terre. Et si on devait l'expliquer très simplement, c'est par exemple pouvoir pêcher juste ce qu'il nous faut pour nos besoins quotidiens en consommation de poissons et en laissant suffisamment pour une régénérescence de cette espèce l'année suivante. Si on nommait cette précaution, cette définition, nous nous exposons à ce qu'on peut appeler communément la surexploitation des ressources. Nous avons connu une surexploitation des ressources, comme j'étais directeur général de l'Office national des pêches, en 2002, le poulpe dans le sud a complètement disparu il y a 20 ans, ce qui a causé l'arrêt de la pêche au poulpe pendant 2 années successives, engendrant une crise économique et sociale très sévère. C'est ce qu'on appelle... On impose ce qu'on appelle le repos biologique pour qu'on puisse laisser les espèces se reproduire pour l'année d'après. De manière générale, le développement durable, c'est pouvoir justement aller un peu au-delà.
Également. Alors professeur, quand on entend parler de développement durable, le mot ONG nous vient à l'esprit. Est-ce à dire que c'est une affaire spécifique aux organisations de défense ou de promotion de l'environnement ou une affaire de tous ?
Au fait, le développement durable est l'affaire de tous. Hein. Je commence par la conclusion pour qu'il n'y ait pas d'hésitation au niveau de ma réponse. Il est clair que le développement durable est l'affaire de tous. Et en général, les principales parties prenantes au développement durable sont les trois, le gouvernement qui régule, l'entreprise qui produit et crée de la valeur en général, et la société civile. Les ONG sont des organisations qui représentent la société civile et qui agissent comme groupe de pression pour défendre les intérêts des citoyens. Donc c'est ça un peu pourquoi on entend parler des ONG et on en entend encore plus parler avec l'entrée justement des négociations, l'entrée en conférence des COP. Et donc la COP, c'est la conférence des parties, qui est un rendez-vous annuel où se retrouvent toutes les parties prenantes, gouvernement, entreprises et ONG. Les négociations commencent essentiellement, concernent essentiellement la réduction des gaz à effet de serre. Les COP sont faites pour ça. Donc les gaz à effet de serre qui sont responsables du changement climatique, du réchauffement climatique en général. La question est comment respecter l'accord de Paris qui a été signé en 2015 et qui visait à maintenir, et qui vise toujours à maintenir l'augmentation de la température à ce qu'on appelle, par rapport à un référentiel, à 1,5 degré. Il ne faut pas que la température, à travers nos productions, nos moyens de produire et de consommer, on ne puisse dépasser des 1,5 par rapport à l'état de référence qui est l'état du début de l'ère industrielle, vers 1800 et quelques, pour simplifier. Et comme a dit le secrétaire général à l'ouverture, durant son discours donc d'ouverture, cela n'est possible que si tous les pays et les entreprises s'engageaient à arrêter l'utilisation complète des carburants de sources fossiles. C'est pour vous dire que les négociations seront dures cette année. Et toutes les années d'ailleurs, l'enjeu est grand. C'est un enjeu économique, mais au-delà de l'économique, c'est notre survie sur Terre qui est en jeu.
Alors professeur, imaginons que je suis le citoyen lambda au fin fond du Maroc. En quoi le développement durable peut-il impacter dans la vie de ce citoyen lambda?
Prenons le cas, par exemple, celui que j'ai cité tout à l'heure, celui du cas de la surexploitation des ressources halieutiques, des produits de la mer, qui a pour conséquence une réduction de l'offre. Lorsqu'il y a crise, lorsqu'il y a surexploitation, à un certain moment, il y a effondrement des ressources, il y a une réduction de l'offre sur les marchés, il y a un surenchérissement des prix du poisson, qui est ressenti directement par le citoyen. Un autre exemple, c'est l'exemple des ressources en eau, qui est également intéressant à citer. Les émissions de gaz à effet de serre sont responsables du changement climatique, avec comme conséquence moins de pluie au Maroc, dans le cas du Maroc, et un risque de rationnement de l'eau. Tanger a connu ce rationnement. Moi, j'étais dans les années 80, j'étais jeune et je savais que l'eau était coupée entre telle heure et telle heure. Évidemment, nous avons évité la crise aujourd'hui. En lançant, le Maroc a lancé des projets de dessalement de l'eau de mer et en lançant le projet de transfert des eaux du Sebou vers le Bourget Greg pour justement alimenter les villes de Rabat et de Casablanca. Vous imaginez sans ce transfert-là le risque que nous encourons. Donc, dessalement, transfert, tout cela coûte de l'argent. C'est évidemment pas gratuit. Donc, au lieu d'investir dans d'autres sources, on investit. Au lieu d'investir dans l'éducation, la santé, on investit dans ce transfert d'eau qui est important. Mais c'est les conséquences d'un changement climatique. Ça se ressent sur les factures. Et si ça ne se ressent pas, c'est que l'État intervient. Mais vous avez vu qu'au début de l'année, dans le projet de loi de finances, il était question d'augmenter les charges eau et électricité. Et donc, ça se ressent directement.
Et voilà. Dans le cas du Maroc, professeur, le Royaume est-il un pays durable?
Il est peut-être trop tôt pour qualifier notre pays de durable. Toutefois, le Maroc est pionnier et a montré la voie en Afrique. Je pense qu'il a fait beaucoup d'efforts. En témoigne sa stratégie d'énergie renouvelable, d'arriver à 52% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique à l'horizon 2030, et même plus ambitieux que ça à l'horizon 2050. Donc, nous sommes sur la bonne voie, mais nous ne sommes pas encore un pays que je qualifierais de durable. La vision bas carbone à l'horizon 2050 sera certainement annoncée par le Maroc à la COP28, c'est-à-dire dans les prochains jours, on entendra parler de la vision bas carbone à l'horizon 2050. Ça veut dire que le Maroc s'engage. Il est un des pays qui est cité en exemple mondialement, pas qu'en Afrique, mondialement, pour tous ces efforts qui ont été faits. Cela étant, être durable va au-delà de l'aspect environnemental seul. La composante sociale, vous l'avez cité au début, j'avais peur que vous ne le disiez pas, mais la composante sociale est également importante. C'est les trois composantes, c'est l'économique, le social et l'environnemental. Et à ce niveau, notre pays a encore beaucoup de choses, beaucoup à faire. Améliorer nos indicateurs au niveau de l'éducation et de la santé, réduire les inégalités, sont autant d'objectifs de développement durable améliorés pour le Maroc, pour un Maroc durable et inclusif.
Un Maroc durable et inclusif également. Majid Kaysar El Gaib, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie. C'était un entretien agréable et je vous en remercie.
Également, merci à vous, amis qui nous suivez. On se donne rendez-vous pour votre prochain numéro sur la durabilité. Merci à vous.